Seigneur, merci Seigneur pour ce privilège de pouvoir nous rassembler librement. Voilà, vous avez une salutation aussi de mon papa et de ma maman, Jean-Paul et Gilou Ribagnac. J'ai eu au téléphone hier, ils m'ont dit « Ah, tu les salueras bien ». Je pense bien à vous aussi dans leur prière. Voilà, donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de selon Luc, au chapitre 1er. On va lire un passage que vous connaissez probablement très bien. Luc, chapitre 1er, verset 26. Luc, chapitre 1er, verset 26. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. » Tu mettras au monde un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son sixième mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Amen. Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. La foi vient, nous savons par la parole de Dieu en Romains chapitre 10, la foi elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque nous écoutons, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous y rencontrons notamment des promesses, les promesses de Dieu. Quelqu'un en a compté 3573, voilà. Je ne me suis jamais amusé à faire ce genre de calcul, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles sont nombreuses. Mais quel qu'en soit le nombre, ce qui est certain, c'est qu'elles trouvent pour nous leur accomplissement dans la personne de Jésus et dans notre relation avec lui. Lorsque tu lis une parole de Dieu, une promesse de Dieu, tu peux t'approcher avec assurance de la personne de Jésus et dire « Seigneur, c'est en toi que cette parole va s'accomplir. Je viens à toi pour que cette parole s'accomplisse dans ma vie. » Et nous pouvons le faire avec assurance, car la parole de Dieu nous dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie, à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et une assurance, il y a une certitude dans le cœur du croyant, que lorsque nous lisons les promesses de Dieu, nous pouvons nous approcher de lui avec assurance. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 20, il est dit encore, « Toutes les promesses de Dieu, toutes, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, Jésus, que se trouve le oui, et c'est donc aussi par lui que nous disons « Amen, ainsi soit-il, à Dieu pour sa gloire ». Toutes les promesses trouvent en Jésus l'approbation du Père. Et c'est pour cela que nous pouvons aussi dire, oui, qu'elles s'accomplissent dans ma vie pour ta gloire au Père. Une des caractéristiques des promesses de Dieu est qu'elles dépassent, et souvent de loin, notre réalité immédiate, personnelle. Mais par la foi, nous sommes amenés à croire que Dieu va accomplir sa promesse et répondre à notre besoin et à notre prière. La promesse a pour but de nous encourager à la prière, nous encourager dans notre foi, dans notre relation avec le Père. Elle nous encourage à grandir dans cette relation afin que nous puissions davantage, encore mieux, le connaître chaque jour. Donc notre foi, en présence de la promesse, attend la faveur de Dieu. C'est ainsi que fonctionne la prière. Nous prions, parce que nous croyons, nous avons entendu la promesse, nous croyons, nous prions, et nous nous attendons à voir la manifestation de la faveur de Dieu envers nous. Mais parfois, il arrive dans la vie chrétienne où les choses sont inversées, où la faveur de Dieu nous est accordée en premier. Et il y a une attente, une exigence dans cette faveur de Dieu, c'est celle de notre foi. Dans ce que nous avons lu, l'ange vient vers Marie et lui dit « Je te salue Marie, à toi à qui une grâce, une faveur a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Dieu lui-même a décidé de faire quelque chose en Marie, sans même que Marie l'ait demandé, sans même qu'une promesse ait touché son cœur puis l'ait poussé à le prier. Dieu avait choisi de faire quelque chose de précis dans la vie de Marie. Et de la même manière, Dieu choisit de faire quelque chose de précis dans ta vie et au travers de toi. Il y a une œuvre, il y a une mission que tu n'aurais jamais même osé rêver ou imaginer. Et cette œuvre de Dieu nous dépasse. C'est une faveur, c'est une grâce de Dieu, mais elle exige une réponse de notre part qui n'est autre que la foi. Marie, voilà une très jeune femme, probablement qu'une adolescente, on ne sait pas son âge précisément, mais et comme cela se faisait à l'époque, elle a été promise à un homme. On ne sait pas non plus comment s'étaient passées ses fiançailles, mais enfin, la voilà fiancée, elle va se marier et elle s'y prépare. Elle avait sûrement, très sûrement, une vie de prière, même si cela ne nous est pas dit. Et je l'imagine simplement en train de prier pour son mariage. Pas seulement pour que tout se passe bien le jour des noces, avec les invités, voilà, que tout se déroule bien, mais pour être une bonne épouse, une bonne mère pour ses enfants. Et elle prie, et elle a trouvé grâce auprès de Dieu. Il y a chez Marie une innocence, de la pureté, il y a un désir de choses spirituelles. Puis soudain, un jour, un messager inattendu la visite. Voilà, c'est tout comme ce matin, cette parole peut-être pour toi, quelque chose qui sera inattendu. Tu vas vivre quelque chose avec Dieu, une surprise. Dieu a planifié quelque chose pour ta vie, quelque chose que tu n'as jamais même envisagé. Tu n'as pas autrement prié pour cela. Ce n'est pas dans tes pensées. Dans tes prières, tu as demandé à Dieu des faveurs pour certaines choses, certains domaines de ta vie, pour tes finances, pour ta vie de famille, pour ton travail, pour peut-être aussi ton service chrétien, pour toutes sortes de bonnes choses. Et c'est vraiment OK pour Dieu. Maintenant, Marie est confrontée à un messager qui lui dit que Dieu lui a accordé non pas la réponse à ses prières, non pas la réponse à ses aspirations, non pas l'accomplissement de la promesse qu'elle avait reçue, mais une faveur toute spéciale, une faveur, une grâce extraordinaire. Dieu lui dit en fait, « Je suis venu pour faire quelque chose en toi et au travers de toi que tu n'as même jamais espéré. » Jamais. Et c'est là tout l'aspect surnaturel de l'Église de Jésus-Christ. Vous savez, lorsque je témoigne même de la guérison que j'ai reçue en réponse à la prière, les gens me disent « Ah oui, oui, c'est vrai que la prière, la foi est quelque chose de positif, et puis ça peut déclencher des mécanismes comme ça, et on évince Dieu ainsi. » Donc on peut, dans ce monde aujourd'hui, on peut trouver toutes sortes d'explications pseudo-scientifiques ou rationnelles à des choses que nous, autres chrétiens, nous pensons être simplement la réponse de Dieu à la prière. Mais il y a un aspect surnaturel dans la vie de l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes un peuple surnaturel. Nous ne sommes pas simplement des êtres humains sur une planète, parmi les 8 milliards d'êtres humains qui sont là. Nous sommes un peuple choisi, élu de Dieu, un peuple surnaturel. On va faire du mal à y penser. Le matin, quand on se lève, on a mal au dos, on a mal partout. Ah, il faut se raser. Ah, puis les soucis de santé qui arrivent, les préoccupations de la vie de tous les jours. Un peuple surnaturel, on a du mal. Et pourtant, nous sommes rendus capable par le Saint-Esprit de marcher dans la volonté de Dieu. Nous sommes rendus capables de permettre à Dieu d'agir au travers de nous. Nous ne faisons pas les choses pour Dieu. Le vrai miracle de notre salut consiste essentiellement à permettre à Dieu de faire en nous et au travers de nous ce qu'il lui a choisi de faire. Et Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Quand nous pensons au plan de Dieu pour notre vie, alors, si vous êtes déjà à la retraite ou depuis quelques années, vous avez peut-être l'impression que le plan, il est bien derrière. Et pourtant, jusqu'à la fin, Dieu a des projets. Mais notre manière de voir le plan de Dieu pour notre vie est souvent, pour pas dire toujours, bien trop petite par rapport à ce que lui veut faire. Je me rappelle cette histoire d'une enfant qui était allée faire des commissions d'une épicerie pour sa maman. Et puis, le bon vieux épicier qui était là, tout attendri de voir cet enfant qui était venu faire les achats pour sa maman, il dit, ma petite, vas-y, prends des bonbons, là, serre-toi, prends des bonbons. Et la gamine qui reste comme ça, qui bouge pas. Vas-y, serre-toi, je te les offre, prends des bonbons. Et puis, la fille qui bouge pas, et puis, il comprend pas. Alors, il prend les bonbons, puis il en met plein dans les mains. Et puis, après, il dit, mais pourquoi t'as pas pris les bonbons? Parce que ta main est plus grande que la mienne. Quand nous prions pour les plans de Dieu, pour les projets de Dieu dans notre vie. Alors, on prie souvent pour ces projets à notre échelle, à notre, comment dire, quelque chose qui corresponde un peu à notre vie, à notre personne, à notre, on va dire, écosystème ou à notre environnement. Mais Dieu, lui, veut beaucoup plus. Beaucoup plus. Vous connaissez ce verset d'Éphésiens, chapitre 3, qui dit « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander ou penser, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Donc c'est pas simplement une puissance extérieure qu'on pourrait attendre, espérer, puisque ça pouvait arriver un jour. Ça peut nous tomber dessus un jour. Donc c'est la puissance qui agit en nous, qui croyons. Le jour où nous avons reçu la personne de Jésus en nous, alors cette puissance a commencé déjà à agir en nous. Et par notre foi, elle nous donne de pouvoir contempler l'œuvre de Dieu qui dépasse largement tout ce que nous pouvons imaginer, penser, demander. Et ça, c'est valable pour toutes les générations, au siècle des siècles, jusqu'à la fin. Pas seulement jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin aussi de notre vie. Pour nous attendre à voir la main de Dieu agir avec puissance. Il n'y a rien de mal à ce que Marie épouse Joseph. Il n'y a rien de mal à planifier son mariage, avoir une famille, de penser à l'endroit où on va vivre, voilà. Et puis, mais soudain, sorti de nulle part, un messager vient lui dire « Salut Marie, il y a une faveur toute spéciale de la part de Dieu pour toi. Réjouis-toi, réjouis-toi. » Et ensuite, ces mots qui vont avoir l'effet d'une vraie bombe. « Tu vas être enceinte et tu vas mettre au monde un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, il sera le successeur de David, il leur sera roi et son règne n'aura pas de fin. » Waouh ! Ça va un peu vite. On va mettre le ralenti, hein. Donc, Dieu, au travers de son ange, lui dit qu'il va le faire naître quelque chose en elle, au travers d'elle. Que ce qu'il va faire naître dans sa vie et au travers de sa vie va avoir un impact infini. Son royaume n'aura pas de fin. Elle va mettre au monde quelque chose qui va glorifier Dieu comme rien d'autre auparavant. Et que de toute sa jeune vie, elle n'aurait jamais imaginé que cela puisse arriver. Marie, elle devait être simplement, allez, on va se faire du bien, elle devait être un petit peu comme nous autres, hein, comme toi, comme moi. Et si nous étions Dieu, et que nous étions sur le point de faire quelque chose de grand, nous ne nous choisirions pas nous-mêmes. Voilà, franchement, si j'avais la révélation que Dieu voulait faire quelque chose de très précis, un endroit précis, c'est pas forcément moi que je pense qu'il choisirait. Tout de même, si Dieu doit envoyer son Fils pour devenir un être humain, ne va pas-il choisir quelqu'un qui a l'expérience ? La Bible ne nous dit pas que Marie dirigeait une garderie. Ça aurait été plus simple. Il va au moins choisir quelqu'un qui sait comment élever des enfants. Que diriez-vous de quelqu'un qui est marié, qui a déjà eu 2 ou 3 enfants ? Ce serait quand même un peu plus sûr. Mais pour Marie, il en va autrement. Et pour elle, recevoir cette parole de Dieu, à cette époque, signifiait aussi qu'elle pouvait être lapidée à mort. Elle devait livrer complètement sa vie entre les mains de Dieu. Alors Marie dit à l'ange, « Mais comment est-ce possible ? Je suis vierge, j'ai même pas connu Joseph, mon fiancé, de manière intime, voilà. » Je ne sais pas si à l'époque déjà ça se faisait comme dans un pays où la femme rencontre son mari pour la première fois le jour des noces. Quoi. Je ne sais pas si c'était déjà comme ça, je ne sais pas. C'est comme si vous et moi nous disions, mais mon Dieu, voilà, écoute, c'est gentil ton appel, c'est sympa d'avoir pensé à moi, mais j'ai vraiment pas les qualifications requises. C'est comme Jérémie qui dit, mais moi je suis qu'un enfant, je ne sais pas parler, quoi. Moïse dit, bah, écoute, Seigneur, t'as pas quelqu'un d'autre. Puis honnêtement, dans ma famille, c'est pas très glorieux. Tu es sûr que tu t'es pas trompé d'adresse? Vous vous souvenez de Gédéon, quand le messager est venu lui dire, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Gédéon lui a répondu, vous devez faire erreur, là. Il doit y avoir erreur. Je suis de la plus petite tribu d'Israël. Mon père fait partie de la plus petite famille, de la plus petite tribu. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué non plus, il a même une idole dans le jardin, là. Hein. Vous êtes sûr, vous n'êtes pas trompé. Vous êtes au bon endroit. Puis Dieu lui dit, taratata, c'est moi qui t'envoie. C'est ce qui fait de toi un vaillant héros. Un homme plein de ressources. C'est ce qui fait de toi ce que tu vas être. C'est pour cela que je ne choisis jamais les sages selon ce monde, ni les puissants, ni les nobles. Je choisis toujours les moins que rien, les inconnus, les exclus, ceux qui n'ont pas de valeur aux yeux de la société, afin que personne ne puisse faire le fier devant moi. Je viens à ceux dont le cœur est ouvert et qui savent que tout ce qui va se passer ne pourra venir que de Dieu. Les plans de Dieu dépassent de loin nos petits plans, nos petits projets. Ses voix ne sont pas nos voix. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Et sa bienveillance dépasse tout ce que nous pourrions imaginer. Le choix de qui il utilise, c'est son choix. Ce n'est pas notre choix. Ce n'est pas par notre propre force, ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Que ce que Dieu a décidé de faire dans nos vies devienne une réalité vivante. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé le Fils de Dieu. Lorsque nous avons reçu la parole de Dieu, nous sommes nés de nouveau. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit qui vit en nous, dans notre corps. Lorsque je pensais à ça hier, je me dis, Seigneur, mais c'est juste magnifique. Tu es dans mon corps. Tu as fait de notre corps ton temple. Ça paraît tellement fou. La même manière que Jésus, le Messie, a physiquement été placé dans le corps de Marie, nous avons en nous la troisième personne de la Trinité. Dieu, l'Esprit, dans nos corps physiques. C'est pas quelque part comme ça, dans un lieu un peu éthéré. C'est dans ton corps. Celui qui est peut-être aujourd'hui fragile, celui qui est peut-être aujourd'hui difficile à supporter parfois, celui qui a difficulté à se mouvoir, notre corps, sujet à la faiblesse, c'est dans ce corps que le Saint-Esprit habite, qu'il habite. Merveilleux. Alléluia. Donner naissance à quelque chose que seul Dieu peut faire. Nous conduire là où Dieu seul peut nous emmener. Nous transformer en ce que Dieu seul peut faire de nous. Et nous donner ce que Dieu seul peut nous donner. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui vit en toi. La parole que j'ai pour toi ce matin, elle est simple. Ne limite pas ce que je peux faire, dit le Seigneur. Ne limite pas, ne mets pas de limite sur moi, ne mets pas de limite à ce que je peux faire à travers toi et en toi. Je peux faire tout ce que je décide de faire, car avec Dieu, tout est possible. Ne mettez pas de limite dans votre vie. On a des limites naturelles. Voilà, parce que nous sommes des êtres humains. Nous n'avons pas de limite à rajouter à cela. N'essayez pas non plus ce monde, vous dicter ce que vous êtes. À Élisabeth, on l'appelait la stérile, voilà. C'est juste horrible. Dans beaucoup de villages, dans les villes c'est un peu moins le cas, mais dans beaucoup de villages, les gens ont des surnoms, des sobriquets, hein, suivant ce qui s'est passé dans leur vie, dans leur jeunesse, dans leur enfance. Et ça leur colle à la peau jusqu'à la fin. C'est comme ça que dans certaines régions, comme la vallée de Joux par exemple, il y a tellement de Charles-Louis Rocha que si on n'a pas le sobriquet, on ne saura pas duquel on parle. Alors ça peut rendre service. Mais dans le cas d'Élisabeth, c'était différent. On lui avait collé sur la peau cette étiquette, la stérile. Et cela s'était accompli toute sa vie. La stérile. Peut-être bien que, dès le début de son mariage, elle avait essayé d'avoir des enfants, et puis, voilà, ça venait pas. Puis à la fin, les gens l'ont appelée la stérile. Peut-être que c'est comme ça que ça s'est passé. Ou c'est une malédiction qu'on a jetée sur elle, je sais pas. Mais ne laissez jamais le monde vous dicter qui vous êtes. On peut-être dit sur toi, oh, tu n'arriveras jamais à rien de bon. T'es qu'un perdant. Tu vaux rien. Il y a tellement de gens qui ont vécu ça dans leur enfance, dans leur jeunesse, pendant leur apprentissage. On les a cassés. Et ça les suit. Et même des chrétiens, certains chrétiens vivent avec ça dans leur cœur. Ils ont reçu le Seigneur, mais ils vivent toujours avec cette pensée de tu n'arriveras jamais à rien de bon, toi. Puis c'est pas maintenant que tu vas y arriver. T'es qu'un loser. Mais ne laissez pas le monde vous dicter qui vous êtes. Vous ne l'êtes pas. En Christ, vous avez déjà gagné. Vous êtes déjà plus que vainqueur. Vous êtes déjà en Christ, assis à la droite de Dieu le Père. Vous avez déjà remporté la victoire en lui. Ne laissez pas le monde vous définir plus longtemps. Laissez Dieu définir votre vie. Laissez-le vous parler de votre avenir, de ce que vous allez être, et ne dites pas non, car cela n'a rien à voir avec vous. Ça n'a rien à voir avec toi, avec ta capacité, ça n'a rien à voir avec ton potentiel. Il n'a pas besoin de nos diplômes, il n'a pas besoin de nos idées, il n'a pas besoin de nos capacités, il a simplement besoin de notre obéissance. Juste l'obéissance. Dans le cas de Marie, Dieu avait juste besoin de son corps. Et peut-être encore d'une dernière chose. Il lui a dit, en effet, Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse, celle qu'on appelait la stérile, et dans son sixième mois, rien n'est impossible à Dieu. Gabriel, en tant que messager de Dieu, encourage Marie. Il lui demande en un sens de prendre en compte ceux qui l'ont précédé ou celle qui l'a précédé. Souviens-toi des témoignages que tu as entendus, du témoignage de ceux qui ont vu la main de Dieu agir dans leur vie. C'est bon de s'en rappeler. Pense à ce que Dieu a fait pour eux et crois pour toi-même. Des fois, nous pouvons lire des biographies et dire « Waouh ! Quand même, chapeau, hein, ce qu'ils ont vécu. » Mais à quoi ça nous sert ? Alors, on peut louer le Seigneur, c'est vrai, pour tout ce qu'il a fait. Mais le Seigneur veut que tu ailles plus loin que ça. Tu dis « Seigneur, ce que cette personne, ce dont elle témoigne, je crois que je peux le vivre aussi. » Tu n'as pas changé. Tu es le même. Hier, aujourd'hui, demain, tu n'es pas différent d'un lieu de la planète à un autre, tu es le même. Seigneur, je m'attends à toi. Dieu n'a pas de chouchou, Dieu n'a pas de préféré, c'est ce qu'il dit, Dieu ne fait pas d'acception de personne. Ce qu'il a fait pour quelqu'un d'autre, il peut le faire aussi pour toi. Ce sera peut-être différent, d'une manière différente, ça n'a pas vraiment d'importance, ce sera glorieux, puisque c'est Dieu qui va faire naître en toi et au travers de toi une œuvre qui est manifestement l'œuvre de Dieu. Alors comment ça va se passer? Tu pourras dire aux gens, c'est ça l'avantage, si tu n'as pas de ressources, si tu te sens faible, fragile, que tu n'es pas encore au point d'après toi, ouais, tu te sens pas trop tellement hyper spirituel. Voilà. Le jour où ça va se passer, ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie, ce qu'il veut faire dans ta vie, alors tu pourras simplement dire aux autres, écoutez, c'est Jésus et Jésus seul. Il n'y a que Jésus. Tout vient de lui. Tout ça, c'est par lui. Et puis c'est pour lui. Christ en nous, l'espérance de la gloire, la liberté de notre vie, les pensées de notre esprit, la capacité de faire ce que nous sommes appelés à faire. C'est Jésus et rien d'autre, et rien, personne d'autre que lui. Et ce qui va naître en toi, ce qui n'est autre que l'œuvre et la personne de Jésus manifestée dans ta vie. Moi, je suis juste émerveillé quand je vois ce que Dieu peut faire au travers de moi, au moment où je m'y attends le moins du monde. Je suis là, je suis wow, ok, magnifique, super Seigneur, je me réjouis. C'est ça l'Église, c'est ça l'Église. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est Christ en nous, par son Esprit. Ce n'est pas ma capacité, ce n'est pas ta capacité non plus, mais c'est sa capacité à travers nous. Ce n'est pas notre volonté, ni la tienne, ni la mienne, mais c'est sa volonté qui s'accomplit en nous et au travers de nous. Ce ne sont pas nos miracles, nos bonnes œuvres, nos actions, mais ce sont les miracles, ces miracles qu'il accomplit au travers de nous. Maintenant, voici la part de Marie. Là, c'est ce que Dieu, de son côté, veut faire. Marie dit à l'ange Gabriel, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange l'a quitté. Voyez-vous, c'est tout ce qu'il était demandé à Marie. Comme le dit la Bible dans Romains chapitre 12, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Ce qui est raisonnable, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, ce n'est pas quelque chose d'exemplaire non plus. C'est juste raisonnable. Il a donné sa vie pour moi, il est juste que je donne aussi ma vie pour lui. Nous avons pris le pain, nous avons pris le vin, nous rappelons que Jésus a donné sa vie pour nous. Il est juste raisonnable que nous lui disions, Seigneur, prends mon corps, prends ma vie, me voici. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Alors, au moment où tu offres ton corps, au moment où tu dis, Seigneur, me voici, comme je suis, avec le peu de ressources que j'ai, avec le peu de moyens, avec le peu de capacités, voilà. À ce moment-là, Dieu commence à te parler. À te parler de ce qu'il veut faire. Alors ça peut être au travers d'une prédication, comme ce matin, comme ça peut être un autre jour, ça peut être en lisant ta Bible, et tout à coup une parole semble jaillir, bondir des pages pour toi. Tu peux être en train d'attendre ton bus, et soudain le Saint-Esprit commence à te parler, à parler à ton cœur de quelque chose qu'il a pour ta vie. Ça peut être sous la douche, ça peut être en mangeant, voilà. Mais Dieu commence à te parler. La part de Marie, je suis ta servante, Seigneur, que ta parole s'accomplisse dans ma vie. C'est aussi ce que Dieu attend de toi ce matin. Me voici, Seigneur, pour te servir. Si tu as fait ça pour elle, Seigneur, tu peux aussi le faire pour moi. Si tu as fait de telles merveilles dans le passé, tu peux le faire aussi aujourd'hui. Tu n'es pas limité par mes capacités ou mon manque de compétences, parce que cela ne dépend pas de moi, mais uniquement de toi. C'est toi qui agis. Ton esprit me couvre de son ombre. Ton esprit agit au-delà de ce que j'aurais pu imaginer ou penser. Bien-aimé, c'est là toute la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Vous voyez, tout se résume à cela, à un moment donné, dans notre marche avec Dieu. Maintenant, on peut choisir de compter sur notre propre force. mais on n'ira pas très loin. Or, certes, on ira toujours au paradis, si on peut dire comme ça, mais quel dommage de passer à côté de tant et tant de choses que Dieu a pour chacun d'entre nous et pour son Église. Que ta parole s'accomplisse pour moi. Peu de temps après, Marie est allée rendre visite à Élisabeth et à son mari Zacharie. Elle voulait voir ce qui lui avait été raconté à propos de son cousin qui était au sixième mois. Il est bon de lire des biographies sur les personnes que Dieu a utilisées. C'est bien de demander aussi à d'autres personnes de partager leurs témoignages. C'est bon de raconter ce que Dieu a fait dans ta vie. Raconte-le. Ça va encourager ta propre foi et ça va encourager les autres aussi. D'ailleurs, on me dit, mais pourquoi on témoigne, hein? Pourquoi on témoigne? Une fois, j'ai raconté ce que Dieu avait fait venait de faire dans ma vie. J'étais tellement heureux, tellement content de ce que Dieu venait de faire, j'en parlais. Et puis, la personne qui était en face de moi, je sais pas si elle était frustrée ou quoi, ou je sais pas, mais pourquoi on témoigne, hein? Pourquoi les gens ressentent le besoin de raconter tout ce que Dieu fait dans leur vie? Voilà, c'est un peu la douche froide. Puis on m'a encore posé la question dimanche passé. Il m'a dit, mais pourquoi les gens témoignent? Est-ce que c'est pas une manière aussi de se mettre en valeur, mettre leur ego en avant? Franchement, si t'as vécu quelque chose avec Dieu, t'as qu'une envie, c'est d'en parler. Sauf si le Seigneur te dit expressément de te la coincer. Mais sinon, parle! Ne te tais point! Ça va encourager ta foi et ça va encourager la foi des autres. Maintenant, si un cœur est fermé, il est fermé. On ne pourra pas le forcer. Donc, Marie est là. Et quand elle est entrée, Élisabeth a entendu juste les salutations de Marie. Le bébé dans son ventre a bougé, mais pas un peu seulement. Ça a tressailli. Élisabeth est remplie du Saint-Esprit. Juste une salutation. Waouh! Comme j'aimerais vivre ça. T'arrives chez quelqu'un, tu le salues, comment ça va? Et la personne, pouf, complètement secouée, et remplie de Saint-Esprit, commence à parler en langue. Je dis, waouh, j'aimerais bien vivre ça. Le seul qui est resté sans rien dire, c'est Zacharie, le mari d'Élisabeth. Tout simplement parce qu'il n'avait pas cru ce que l'ange était venu lui annoncer. Il allait rester muet jusqu'à la naissance de son fils Jean. Ah, vous connaissez l'histoire. On peut imaginer Marie à table avec Élisabeth et Zacharie. Il y a une attente, il y a une excitation, il y a une réjouissance, il y a une joie, il y a une présence de Dieu tellement manifeste. Peut-être qu'elle est restée 3 mois chez eux, je ne sais pas combien de temps, c'est pas précisé. Puis j'imagine Zacharie qui se dit, mince alors, cet ange est apparu à cette jeune fille, il lui a dit qu'elle allait porter le Fils de Dieu. Même ange est venu vers moi, m'a dit que nous allions avoir un enfant, et je ne l'ai pas cru. Mince alors. Et pourtant, Zacharie, c'était un prêtre. C'était lui qui était à la tête de cette famille de prêtres à ce moment-là. Comme quoi on peut être tellement coincé dans la religion. Tellement coincé par notre propre religiosité. Puis la foi passe au second plan. Donc, Zacharie, oui, il passait son temps plongé dans les Écritures. C'est ce qu'était demandé des prêtres. Il était serviteur officiel du Seigneur. Il avait une certaine connaissance. Il appliquait les rites. Il était fidèle dans la maison de Dieu. C'était quelqu'un de droit, de juste. Toute sa vie était bien réglée. Ce qui lui manquait. Et quel dommage. C'était un cœur ouvert. Un cœur désireux de vivre tout ce que Dieu seul pouvait accomplir dans sa vie. Zacharie avait pourtant le témoignage dans les Écritures d'Abraham et de Sarah. C'est pas rien. Il était là, il connaissait cette Écriture. Peut-être même qu'il l'avait enseignée. C'était bien là. Et lui-même pensait bien être un descendant d'Abraham. Et ça ne suffisait pas. Et parfois nous pouvons connaître des promesses de Dieu, connaître ce que Dieu a fait dans le passé, ce qu'il fait aujourd'hui peut-être ailleurs, mais ça ne suffit pas. Il nous faut un cœur ouvert et désireux de vivre tout ce que Dieu a pour nous. Seigneur, je ne veux pas passer à côté d'une parcelle, d'une poussière de ce que tu as pour moi. Je veux vivre le tout avec toi. Élisabeth s'écrie, elle prophétise, puisqu'elle n'est pas seulement remplie d'esprit, elle déborde. Elle dit, heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Ce qui va être dit de la part du Seigneur dans ta vie, si ton cœur est ouvert, va s'accomplir. Puis le Saint-Esprit est venu sur Marie. Pas seulement pour qu'elle puisse enfanter le Seigneur Jésus, mais elle a prophétisé. Saint-Esprit est venu sur elle. Et c'est ce qui se passe quand on décide de quitter le monde de l'incrédulité, du doute, de l'hésitation, et que l'on dit simplement, Seigneur Jésus, je te demande de faire ce que tu veux dans ma vie et au travers de ma vie. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi où tu veux. Fais de moi qui tu veux que je sois. Donne-moi ce que tu veux que j'aie. Me voici, Seigneur, 100% disponible. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, 100% disponible. Je t'ouvre mon cœur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. J'aime me rappeler que le jour du premier miracle de Jésus, aux noces de Cana, Marie a dit aux serviteurs, en parlant de Jésus, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et ça ouvre le chemin au miracle de Dieu dans ta vie et au travers de ta vie. Marie avait appris la leçon. C'est pas seulement un truc qu'elle avait appris 30 ans auparavant. C'est quelque chose qui était là bien présent dans sa vie. Faites tout ce qu'il vous dira. Quelque chose va se passer. Que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Je vous invite à prier avec moi. En recevant cette parole, j'étais réjoui. Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je veux vivre vraiment. Et je crois aussi que le Seigneur a quelque chose de merveilleux pour ta vie. Indépendamment de tes capacités, indépendamment de tes ressources, indépendamment de ton état actuel, Dieu est bien plus grand que notre cœur. Dieu est bien plus grand que notre pensée, bien plus grand que notre faiblesse. Il se glorifie d'ailleurs dans notre faiblesse. Seigneur Jésus, c'est ta parole que nous avons ouverte. Et je te loue, je te bénis parce que nous ne sommes pas laissés seuls face à ta parole. Tu nous as donné ton Saint-Esprit. Et cher Saint-Esprit, je te prie, toi qui vis en nous, je demande que cette parole puisse toucher son but, atteindre son but dans notre vie. Je te prie, élargis notre cœur, élargis notre pensée, ouvre notre cœur afin que nous puissions vivre pleinement tout ce que tu as en réserve pour nous. Je libère un esprit de foi, un esprit d'audace, un esprit de hardiesse, Seigneur, au milieu de nous. Tu viens, Saint-Esprit, tu prends toute la place. Libère-nous de tout ce qui peut nous être une entrave dans notre vie, notre marche avec toi. Apprends-nous à t'écouter. Apprends-nous à dépendre de toi en toutes circonstances. Viens nous surprendre. Remplis-nous et conduis-nous. Merci Seigneur. Je te prie pour mes bien-aimés, je te demande d'encourager ceux qui sont découragés, de relever ceux qui sont abattus, de fortifier ceux qui sont affaiblis. Seigneur, viens, viens Jésus, viens Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Merci. Glorifie ton nom dans ton Église et au travers de ton Église, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et puis, bonne continuation.